Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril, mais pour certains, nous sommes aussi le 45 mars. Depuis jeudi 31 mars, il y a deux semaines donc, la place de la République héberge des jeunes et des moins jeunes venus passer leur nuit debout. Des nuits debout qui se sont exportées ailleurs en France, mais toujours en mars, pour protester contre la loi travail à l'origine, mais aussi, voire surtout, pour discuter et échanger, pour remettre l'humain au cœur des préoccupations et pour se réapproprier, disent-ils, la parole et l'espace public.
Aymeric Panville, vous êtes membre de la commission exécutive du pôle de Renaissance communiste en France. Vous étiez aussi présent en place de la République. Vous soutenez le mouvement de la Nuit Debout. Vous l'estimez donc en adéquation, aussi bien dans la forme que dans le fond, avec la raison d'être communiste. Est-ce que c'est le grand soir ?
Non, le soutien que nous apportons au nom du PRCF est un soutien critique, sous condition évidemment. C'est-à-dire qu'on pense que c'est une lutte de plus qui vient s'ajouter, qui est tout à fait significative, qui montre une nouvelle étape, effectivement, et surtout la participation de nouveaux acteurs. Mais elle ne saurait se substituer aux luttes qui existent déjà et qui sont principalement portées par le mouvement des travailleurs et dans la contradiction essentielle, dans le lieu essentiel de la contradiction, dans le mode de production capitaliste, qui est l'entreprise. Donc, effectivement, il y a plusieurs éléments dans Nuit Debout et nous saluons les plus progressistes et nous essayons de travailler avec eux.
Ce sont lesquels les plus progressistes ?
Si vous voulez, il y a différentes couches sociologiques. Quand je vois par exemple les premiers porte-paroles qu'ils se sont donnés, un économiste comme Frédéric Lordon, j'observe son positionnement. C'est quelqu'un qui va dans le bon sens, me semble-t-il, qui a commencé très à droite, hein, ou même il était, je crois qu'il votait à droite, puis il était régulationniste, en un sens anti-marxiste. Hein. Ça m'a été confirmé par pas mal de ses collègues au CNRS d'ailleurs. Et bon, aujourd'hui, ils prennent la sortie de l'euro. Il y a encore une semaine, ils disaient, nous ne savons pas trop ce qu'on va faire, enfin, nous ne revendiquons rien, et aujourd'hui, ils viennent lancer le mot d'ordre de grève générale. Timide, d'ailleurs, à mon avis, je pense que s'il avait été peut-être mieux conseillé, le mot d'ordre pertinent, il me semble, c'est d'ailleurs ce qu'on lance nous au PRCF, c'est grève générale interprofessionnelle reconductible. C'est quelque chose à laquelle il faut travailler. Effectivement, ça va aussi avec une jonction, bien sûr, avec les syndicats, la CGT, la FSU, et les éléments évidemment les plus batailleurs en son sein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui est surgi de la lutte contre la loi M. Khomri, donc sur des bases sociales. Donc contrairement à ce que veulent faire croire les détracteurs, disons, de ce mouvement, c'est pas du tout une lutte sociétale. Enfin, il y a des éléments, évidemment, de la petite bourgeoisie qu'on appelle Bobo, si vous voulez, ça existe, ces gens-là, j'ai jamais dit le contraire. Vous avez aussi, parmi cette petite bourgeoisie, des gens qui vont, effectivement, de mon sens, ça existe, ça a toujours existé, ça s'appelle la gauche progressiste, quoi, si vous voulez. Et, effectivement, vous avez des... si ces luttes embrayent, disons, sur un mouvement sérieux, revendicatif, sur des bases sociales, sur la contradiction au gouvernement Hollande, et notamment, c'est pour ça qu'il faut absolument montrer le lien qu'il y a entre la loi El Khomri et les directives de l'Union européenne, puisqu'en fait, c'est la mise en musique de directives de l'Union européenne, et replacer ça dans un contexte international, c'est-à-dire qu'il faut absolument montrer que lutter contre la signification géopolitique du gouvernement Hollande qui nous a remis encore plus dans l'OTAN. On a franchi un palier de plus au début de l'année. Donc quand j'entends, y compris, j'ai vu récemment les thèses les plus conspirationnistes, les plus folles, dire c'est une nouvelle révolution orange, il y a, je sais pas, Soros derrière, j'ai entendu des choses comme ça. A priori, ce mouvement-là gêne le gouvernement Hollande. Le gouvernement Hollande est littéralement le caniche des États-Unis. Donc on m'explique en quoi ce mouvement serait piloté par les États-Unis. Ça me semble complètement aberrant. Effectivement, tout le monde n'est pas marxiste-léniniste dans ce mouvement. Nous pensons que le marxiste-léniniste est la forme la plus sérieuse qu'a pris le mouvement ouvrier dans l'histoire. Une forme éprouvée, effectivement, qui demande à être... actualiser, disons, faire l'analyse concrète de la situation concrète aujourd'hui avec un certain point de vue de classe et une analyse marxiste solide. Et nous pensons que ces jeunes-là vont aussi apprendre la politique. Il y a effectivement beaucoup de jeunes. Le terme de jeune n'est pas une catégorie sociale, évidemment. Il faut voir effectivement quel type de jeunes sont là. Effectivement, le terme même de nuit debout pose un énorme problème au sens où il est déjà entaché d'une certaine, justement, position de classe, un peu petit bourgeois, parce que, évidemment, ça ne s'adresse pas directement au monde du travail, parce que, de toute façon, jour debout, je comprends, mais quand vous faites les 3-8, c'est plus difficile, quand vous avez effectivement des familles. Rien que déjà, il y a un problème dans la définition même, Mais que la jeunesse se mobilise à partir d'une loi sociale, on l'attendait depuis longtemps. Depuis, on a vu les indignés, on a vu à peu près la même chose en Grèce. On se demandait pourquoi le pays classique de la lutte des classes, je ne fais que citer Lénine, hein, et la France, pourquoi ne développait pas, pourquoi la jeunesse n'est pas dans la rue. Moi, ça m'a fait énormément de bien aussi, je peux vous dire, en tant que quarantenaire, hein, futur quadra, parce que je évidemment, c'est pas du tout la génération de gens ahuris d'internet, pétochards derrière leur ordinateur, incapables de faire de la politique, de se rencontrer. Voilà, la politique, c'est quand même c'est charnel, hein, ça se fait dans la rue quand même. Enfin, c'est un drôle de pays, la France, parce que quand vous voyez que même la droite défile, prend la rue, vous savez que la droite aux États-Unis, elle fait des tea parties. Mmh. Hein, n'est pas du tout. En France, ça se passe dans la rue de toute façon.
D'accord. Donc,
Gonzague de Chanterac, vous êtes attaché parlementaire auprès du député Les Républicains Yannick Moreau et vous êtes allé faire un tour dans la rue, vous êtes allé Place de la République mardi.
C'était dimanche en fait, c'était avant le grand déménagement du lundi
D'accord.
matin.
Voilà. Et alors vous êtes relativement sceptique.
Oui, non. Moi j'ai une expérience de militant de rue de droite, puisque j'étais à l'Uni, les étudiants de droite, également à la Manif pour tous, donc arpenter le pavé et avoir une action politique incarnée, ça on connaît. Moi je suis assez content d'avoir ce débat, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un débat avec un authentique communiste. Ça remontait je crois à 2009, où on avait déposé une gerbe pour les millions de morts du Parti communiste à l'occasion des 20 ans de la chute du mur. Donc je suis très content d'avoir un débat un peu de fond et pas uniquement avec des militants sociaux-démocrates qui savent pas d'où ils viennent. Non, mais le communisme en général, le Parti communiste a trouvé globalement positif ce bilan, mais je pense que c'est pas tout à fait le débat.
Oui, là, on est bon.
Mais sur Nuit debout, ce que je trouve effectivement très juste, c'est de constater le matérialisme. Moi, je trouve affligeant de voir que les revendications, c'est 1 200 € de salaire, c'est l'abolition des loyers, c'est l'encadrement des revenus 1 à 4. Enfin, moi, ça me fait pas rêver. J'ai 26 ans, le monde est rempli de défis, il y a des enjeux formidables dans la recherche scientifique, dans la lutte contre la pauvreté, etc. Et on vient me parler du SMIC à 1 200 € et du fonctionnariat à vie. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, pour moi, c'est un matérialisme et c'est effectivement un combat de gauche qui donne un primat à la question économique et sociale dans une question de lutte. Donc ça, j'en conviens tout à fait. Ce que je vois aussi, c'est que un des mots d'ordre, c'est la convergence des luttes. C'est pas du tout spontané. C'est une vieille rhétorique qui existe depuis très longtemps. Et si vous allez voir Place de la République ou aujourd'hui là où sont affichées les Nuits debout, vous avez toute une succession de comités d'action, de programmes, de commissions qui se réunissent et qui ont un but très simple, c'est de fragmenter la société en autant d'individualités pour reproduire un schéma dialectique, l'opprimé, l'opprimant, etc. Et ensuite, dans toutes ces structures-là, essayer de faire une grande convergence. Donc il y a les migrants, il y a les LGBT, il y a les etc., etc. On peut ajouter toute la liste des oppositions. Et donc cette société qui communautarise, qui divise, etc., pour moi, c'est encore une fois effectivement une vision de gauche. Donc là-dessus, pour moi, la Nuit debout, il est très identifié. Il n'est pas du tout dans l'optique de recherche d'un bien commun, de se dire comment est-ce qu'on va faire pour retrouver une solution tous ensemble, etc. Troisièmement, ce mouvement, il n'est pas inédit. Il n'est pas spontané, il est au contraire très organisé. Quand dimanche, je suis allé Place de la République, alors aujourd'hui, le format qu'a pris Nuit debout est un peu différent, c'était un forum associatif assez typique des mobilisations anti-G9, anti-G20, etc., où vous avez les stands de Greenpeace, d'Attac, du droit au logement, vous avez des tentes pour le soutien à la Palestine, etc. Enfin, c'est tout un écosystème contestataire qui vient, qui est là, qui déploie ses banderoles, qui se redémonte, qui va se remonter ailleurs. Alors, la seule surprise que j'ai eue, c'est de pas trouver les anti-OGM. Peut-être que je les ai mal cherchés. Mais pour moi, cette contestation, elle est très régulière. Et on l'a vu, en creusant un petit peu, les autorisations de manifester ont été déposées par des organisations syndicales. La CNT est présente. Quand on se balade un peu, on voit des binômes de trentenaires avec des sacs quechua de 40 litres, dans lesquels il y a probablement pas que des lunettes de soleil et des tongs, mais plutôt des lunettes de plongée, des chiffons imbibés de citron pour éviter les gaz lacrymogènes. Enfin, plutôt du matériel militant pour avoir un militantisme de rue. En revanche, je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée de dire que dans ce mouvement, il n'y a pas de bobos. Moi, ce que j'ai vu sur place, c'est beaucoup de curieux, beaucoup de jeunes, au contraire très bobos, qui sont venus rêvasser un petit peu et se dire, tiens, la révolution, c'est bien. Mais ils sont, à mon avis, à des années-lumière de ceux qui ont fait la commune, les barricades, etc. Il n'y a aucun rapport entre les jeunes qui se prennent en photo, qui font une photo en collectif sur la place de la République et les luttes rêvées de la semaine sanglante et du temps des cerises. Pour moi, on en est très loin. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'idiots utiles qui sont venus là-dedans et très peu de vrais prolétaires aujourd'hui. Donc voilà, moi, je partage pas tout à fait cette analyse. pour prendre un peu de recul, je pense que c'est quand même un mouvement très très parigo-centré. Bon, ok, c'est le 45 mars, il y aura 46, un 47, mais on n'est pas du tout sur des mobilisations comme il y a eu notamment, je reparle de la Manif pour tous, de plusieurs centaines de milliers de gens qui venaient vraiment de tous horizons, qui convergeaient à Paris avec une mobilisation qui a duré 3 ans, qui continue encore puisque les veilleurs et les sentinelles qui ont essayé aussi d'avoir cette action de rue, cette action de philosophie, de réflexion, de se poser la question, ben, ils faisaient une veillée encore mardi soir sur le thème du peuple, avec des réflexions philosophiques, dire qu'est-ce qu'un peuple, d'où naît un peuple, est-ce qu'il a une conscience, est-ce qu'il a une limite, est-ce qu'il a une frontière. À Nantes, la semaine dernière, c'était la première du debout, mais c'était la 141e veillée. Alors on peut se poser la question, pourquoi il y a une telle différence de traitement médiatique? Voilà, ça je pense que c'est une question qu'on pourra peut-être aborder.
Cela dit, la Nuit Debout, ils sont pas que à Paris, là, ils sont quand même...
Ils commencent à se développer, effectivement, mais comme vous avez d'autres mobilisations qui se sont développées, la question est de savoir quel est le noyau. Si le noyau, c'est le même que les noyaux de Samizda, d'Indymedia, de tous les formes contestataires qui existent partout à Nantes, moi je grandis à Nantes, vous avez un local qu'on appelle B17, qui est Boulevard Bellamy, qui est le lieu de rencontre, qui est une forme de maison du peuple dans lequel toutes les associations viennent, etc. Donc vous pouvez effectivement avoir 50, 60 à La Roche-sur-Yon, ville où j'ai fait mes études, préfecture de la Vendée, vous avez 50 personnes, vous regardez les photos, vous avez les militants d'une tendance très à gauche du Parti Socialiste, vous avez des militants du PCF, etc., etc. Mais vous n'avez pas l'homme de la rue, vous n'avez pas la mère célibataire avec 3 enfants à charge qui essaie de cumuler 2 petits emplois. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se rêve et qui se rêve d'une désillusion du socialisme depuis 2012. La gauche s'est rendue compte qu'une nouvelle fois, elle a été trahie parce que la gauche, en application des idées, soit c'est un massacre et un désastre et une catastrophe, soit c'est une désillusion complète parce qu'ils se rendent compte qu'au bout de 2 ans, bah, les grands rêves ne tiennent pas face aux réalités. Et je pense que c'est cette désillusion-là qui aujourd'hui fait que Nuit Debout, vous avez beaucoup de gens qui se disent comment est-ce qu'on peut réinventer une forme de gauche. Voilà.
Oui, mais alors du coup...
Je pense que mon contradicteur donnait une des explications justement à ce qui est un petit peu dans la tête de ces jeunes-là. Et malheureusement, ils pensent un petit peu comme mon contradicteur quant à un certain anticommuniste, pour certains. Parce que, écoutez, quand on reprend les thèses de Stéphane Courtois, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein,
l'histoire des j'ai été l'élève.
Oui. Bon, Stéphane Courtois a été contredit par ses propres co-auteurs dans son fameux livre noir. Et en fait, le raisonnement de Courtois consiste à attribuer aux communistes les morts de toutes les guerres qu'on leur a menées, ou à dire que quand il y a une famine, effectivement, quand c'est sous régime capitaliste ou féodal, c'est de la faute de la nature. Quand c'est
en Ukraine, c'était spontané.
Ah, écoutez, le Molodov. Moi, on a fait une conférence avec Annie Lacroix sur le sujet. Je vous ramène aussi aux thèses de Mark Togger qui va bientôt paraître. Et je peux vous assurer que c'est tout à fait intéressant. Ce qui est très drôle, c'est que là, ils ont essayé d'inventer un type de révisionnisme propre communiste. Ça date de très peu de temps. Et c'est né sous Reagan, c'est né sous Robert Conquest qui vient de VDCD, qui était un agent du MI6.
Et... Donc le goulag n'a jamais existé.
Ah non, personne n'a jamais dit ça. non, c'est un système pénitentiaire qui a tout fait exister. Alors, mais effectivement, à partir de ce préjugé anticommuniste qui perdure dans la gauche, et effectivement, la social-démocratie embarque la jeunesse dans tous ces programmes de trahison depuis un temps immémorial. Et c'est ce qui explique aussi une méfiance envers les partis, envers toute récupération. Pour l'instant, je dirais que ça m'intéresse ce terme de récupération, parce qu'a priori, il pourrait même se produire le fait qu'une certaine social-démocratie, là au sens propre, hein, celle autour du monde diplomatique, essaie de récupérer ce mouvement, qui est un mouvement de travailleurs. Faut quand même rappeler que derrière, il y a Airbus, il y a les Goodyear. C'est ça qui a commencé à mettre le pays en branle.
Et là, c'est surtout l'UNEF qui négocie avec Manuel Valls et qui se couche pour 450 millions. Ça fait chier la call girl.
Bah, écoutez, moi ça m'intéresse beaucoup plus effectivement ce que fait la CGT, que va faire le Confédéral. D'ailleurs, les Goodyear ont appelé à dire que fait la Confédé, effectivement. Et là, le congrès de la CGT va être très important dans les semaines qui viennent, fin avril.
Une fois qu'on aura recasé M. Le Pen.
Oui, bah écoute, moi de toute façon, je soutiens, nous on est au PRCF, on ne se sent pas partie prenante de tout le mouvement qui a été de mutation, liquidation du Parti communiste français. Nous pensons que depuis les années 70, il y a une idée léninisation du parti, c'est-à-dire que le rôle clé de la classe ouvrière a été complètement entamé et qu'il faut rétablir des bases de lutte. Alors on se réunit nous au sein de la CGT autour du Front syndical de classe. Et effectivement, je pense qu'on aura un rôle moteur à jouer. Donc effectivement, nous craignons...
Donc plus que Léon Blum, on sera revenu au début du XXe siècle, c'est formidable. Si on revenait à Nuit Debout...
Léon Blum, excusez-moi, j'ai pas bien compris le fond populaire, mais bon.
L'affaire
Dreyfus, ou je sais pas...
Vous n'êtes pas hyper optimiste sur une éventuelle action politique à partir de ce mouvement, alors pour vous c'est juste...
Moi, je pense qu'il y a un effet de grossissement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un début de contestation, que c'est à mesure de la déception à gauche. Il suffit de voir, aujourd'hui, François Hollande est entre 12 et 13% d'intention de vote. C'est quand même assez inquiétant pour quelqu'un qui, il y a encore 4 ans, faisait 50, et quelques.
Est-ce qu'on reste 15 jours sur une désillusion, sur juste l'expression d'une déception?
Oui, je pense. Parce que la gauche est beaucoup plus habituée à une mobilisation et une mobilisation permanente. La révolution permanente, c'est vraiment la gauche qui l'incarne et qui la théorise. Surtout que si vous regardez le profil sociologique des gens qui sont là et des permanents qui sont là et de ceux qui prennent la parole, ce sont pas des perdreaux de l'année. Ce sont des gens qui ont quelques années de boutique et de militantisme. Alors, je sais pas si c'était à Woodstock, mais en tout cas, je sais que c'est pas leur premier combat syndical et que quand ils demandent très naïvement, tiens, j'ai une action à vous proposer, si on allait bloquer physiquement une banque, ils ont pas eu l'idée qu'on arrivait en place de la République. Donc, pour moi, tout ça est très bien organisé avec des vrais professionnels. Ce qui change un petit peu, c'est que la désillusion amène dans ces rues de Paris, avec le soleil venant, des interlocuteurs qui disent tiens, si on allait voir, on a vu à la télé, ça a l'air marrant, on est en train de planter des lilas à place de la République dans des petites bouteilles plastiques, il y a des concerts de tam-tam, c'est un peu écolo, bobo, bio, c'est très drôle. Je pense pas que l'ouvrier CGT de Bouguenay, il soit vraiment à fond dans tiens, on va planter
des petits lilas là-dessus. Vous y allez sur la place.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est un discours typique de la droite que de faire croire qu'à gauche il n'y a que des bourgeois bohèmes, c'est-à-dire que il existe un peuple de gauche. Je peux vous dire que le peuple de gauche, il a fait l'histoire de France. En même temps, il est toujours là. Et effectivement,
c'est beau, les slogans,
quand Lénine parlait du gauchisme maladie infantile du communisme, il donnait la possibilité effectivement que ces gens grandissent. Donc, je crois que c'est l'important, c'est de savoir qui. C'est moral de dire que c'est à la classe ouvrière, à la classe des travailleurs, de diriger le pays. Donc c'est aussi eux qui doivent diriger le mouvement. Ça, c'est très important. Donc
de ce point de vue-là, j'espère combien de salariés.
La classe, vous savez, c'est au moins.
Il faut évoluer un peu dans une notion plus large.
Le couple ouvrier-employé, c'est un peu plus de la moitié de la population française. Donc de toute façon, vous savez que le terme pour Marx, c'est Arbeiter, qui veut dire le travailleur. C'est pas la fabrique Arbeiter, l'ouvrier d'usine, même si c'est toujours
en France. Est-ce que vous pensez que la nuit debout peut se concrétiser politiquement, en fait? La question,
oui, pour le meilleur et pour le pire, ça peut évoluer d'un côté comme dans l'autre. Je vois en ce moment, j'ai vu l'article de Corcuffle contre Lordon, qui va dans Libération, va dans le mauvais sens. Alors qu'au contraire, moi je pense qu'il faut plutôt.
C'est-à-dire le mauvais sens.
Effectivement, un sens anarchisant. Si ça vient de Libération, je me méfie énormément déjà. Et sous prétexte en faire renchérir dans ce côté anti-partisan, alors qu'en fait il faut que les jeunes commencent à s'organiser. Je veux dire, on va pas revenir aux vieilles unes. On va pas revenir à marcher à quatre pattes comme l'a fait le mouvement ouvrier. Ça revenir à, je sais pas moi, à Proudhon ou à Fourier.
On pourrait aller vers une représentation politique.
Oui, il faut un renforcement il faut renforcer les troupes d'un grand mouvement communiste. On manque d'un parti communiste puisque le parti communiste actuel ne joue plus son rôle.
Mais du coup, ce serait une forme de récupération finalement contre laquelle il.
Mais ce que je vous dis, c'est que c'est une bonne récupération et qui est parfaitement morale.
Moi, j'admire justement la lucidité des communistes qui sont pas du tout dans la langue de bois socialiste de blablabla, c'est spontané, blablabla. Les communistes disent, il y a un sens de l'histoire, il faut faire la révolution avec nous. Si vous voulez un rapport de force effectif qui prenne le pouvoir, venez avec nous. Au moins, c'est clair, c'est cash. Si on avait un représentant de l'UNEF, c'est exprès, non, pas du tout, on est indépendant, blablabla. L'UNEF touche des dizaines de milliers d'euros des députés socialistes par la réserve parlementaire. C'était souligné pour une fois. Donc, il y a en tout cas, dans la gauche traditionnelle, une volonté de dire non, il n'y a pas de problème. Oui, moi, je sais qu'il y aura une récupération. Elle a déjà commencé puisque le projet de loi El Khomri a été vidé de son contenu. Donc aujourd'hui, il y a un maintien arbitraire de ce mouvement qui n'est plus fondé sur ce qu'était la base de départ. Aujourd'hui, c'est l'abolition des loyers, c'est la semaine de travail à 25 heures, pourquoi pas à 24 ou à 23.
Ouais, mais si on regarde les indignés auxquels on compare beaucoup le mouvement, ils ont fini, eux, par s'organiser dans quelque chose de plus ou moins nouveau.
Dans un système politique qui est un peu différent quand même.
Qui malheureusement a débouché sur Podemos avec les problèmes que l'on connaît. La même chose pour Tsipras. Donc effectivement, on est très attentif à ça. Mais simplement, c'est un rapport de force, de toute façon. Vous savez, dans la logique marxiste, le matérialisme dialectique, quand on ne considère pas quand un verre est posé sur une table. Un verre, il fonce vers le centre de la Terre, il s'obéit à une autre. Enfin, c'est la physique de base, si vous voulez. Si un verre tient sur une table, c'est parce que simplement il y a deux forces qui s'opposent. Il y a un rapport de force perpétuel. Donc effectivement, de ce point de vue, moi je ne crois pas du tout à la naïveté. Je ne crois pas. Les sociologues ont raison de dire qu'il n'y a pas d'agnosticisme en politique. Les gens croient toujours à quelque chose, même ceux qui vont défendre les positions les plus naïves. Et puis, de toute façon, c'est un petit peu normal à cet âge, et surtout avec la désinformation qu'il y a.
La différence qu'on peut voir, me semble-t-il, avec des mouvements populistes ou contestataires qui ensuite ont réussi à trouver, c'est que le système politique français, aujourd'hui, repose sur le fait majoritaire, l'élection du président de la République et des élections législatives.
Justement, on vient à cette question qui a été...
Et fait qu'aujourd'hui, dans une base électorale, c'est compliqué pour eux d'exister.
Même bah là, s'il y a la question de la proportionnelle, à votre avis, est-ce que ça changerait les choses, par exemple, si jamais ça revenait sur le...
Ça pourrait changer, mais aujourd'hui, il faut une réforme constitutionnelle qui est difficile à mettre en œuvre dans le climat actuel, etc. Mmh. Puisque les députés socialistes sont quand même aujourd'hui très très mal en point dans tous les cas de figure. Mais est-ce qu'ils accepteraient de laisser une énorme part à une gauche contestataire qui derrière pourrait arriver? Là, on arrive dans du scénario politique électoral plus complexe. Si on revient à l'essence de Nuit Debout, moi je pense que c'est aussi une diversion mise en place par le gouvernement. On l'a vu là avec le débat de la légalisation du cannabis. C'est très amusant de voir que on est censé être en état d'urgence jusqu'au 26 mai. On arrête des terroristes de temps en temps dans d'autres pays. Il y a des questions très importantes sur quelle est l'identité, comment va évoluer notre société, etc. Et puis on nous ressort des sujets sur l'économie, sur etc. Très bien, mais quelles sont aujourd'hui les vraies menaces?
On va pas mettre le pays en sous coupe réglée et tout réduire à cette
base
de sécurité.
Si on avait fait le travail comme il fallait pendant les deux semaines de début d'état d'urgence, on n'aurait plus besoin d'être aujourd'hui en état d'urgence. Moi, je pense que l'état d'urgence, ça doit être très limité.
C'est comme Marine Le Pen qui dit si le FN a été au pouvoir, on aurait plus d'attentat en France. Enfin, je veux dire,
L'UNI avait fait une campagne en avril 2015, c'est-à-dire quelques mois avant les états de novembre, en disant avec l'état d'urgence, on récupérera justement des informations, du matériel, etc. Le président de la République a choisi de le faire au lendemain d'attentat. C'est un peu dommage, mais il n'y a pas de fatalité en politique. Il me semble que dans l'esprit communiste et marxiste,
votre état
il faut
d'urgence,
justement
agir. Jours, donc
ah non, je viens de vous dire justement, on limite à deux semaines pour pouvoir faire le travail.
Ah, d'accord.
Voilà. Mais il faut
bon
écouter
boulot,
la position.
Au Chili, ils ont fait le travail très vite. Ça a duré en une soirée, ils mettaient tous les gens dans les stades. On a très peur de cet arbitraire. Et je précise que nous sommes en 5e République qui, de toute façon, cette question de la proportionnelle pose d'énormes problèmes, puisque de toute façon, ça a été créé pour mettre en jeu le Parti communiste. Donc on le sait très bien. Et c'est François Gaulle.
Qui bénéficie
nous
de complaisance.
Nous sommes un régime présidentialiste. Donc ce qui pose d'énormes problèmes, y compris surtout l'indépendance des médias.
Qui bénéficie encore de complaisance, sinon on n'a plus de groupe à l'Assemblée nationale depuis très longtemps. À force de baisser le seuil, des fusions avec des députés ultramarins, on se demande s'il reste encore des vrais communistes. Depuis que Maxime Grémet est parti, on s'interroge.
Le gros problème du Parti communiste français actuel, c'est ses liens avec le PS. Oui, ça, c'est il faut absolument rompre le cordon ombilical. Oui, ça, c'est et y compris faire pression sur lui. Je pense pas qu'il soit redressable du dedans, même. Hein, ça fait 20 ans quand même qu'on a subi cette mutation, liquidation. Mais effectivement, il est temps que ça change. Et c'est un des cœurs du problème. C'est un des leviers. Effectivement, la politique passe aussi par les partis. Et quand on a un parti qui ne fonctionne pas comme un parti, effectivement, ça pose problème.
Ce qui ferait donc, pour vous aussi, le mouvement Nuit Debout, si jamais il n'a pas de représentation politique ou s'il ne vous rejoint pas, il ira nulle part. La seule solution, c'est ça?
Ah non, vous avez plusieurs éléments, surtout aujourd'hui, puisque vous avez même des gens qui mettent plutôt leur drapeau dans leur poche, vous avez des différentes personnes, non, c'est sociologiquement. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup aimé votre article, parce que même, j'essaie même de mettre de votre place, hein, je ne suis pas totalement dogmatique, mais je trouvais que vous devriez lire, par exemple, Karl Marx, la lutte de classe en France sur 1848. Vous avez 14 ou 15 groupes sociaux, c'est là où il parle de la lumpenproletariat. Mmh. Vous avez différents éléments, vous pouvez pas... Là, vous êtes passé 2 heures chez eux, faites une analyse sociologique, c'est très long, effectivement. Vous avez peut-être pas beaucoup d'intérêt, effectivement, c'est le peuple de gauche, alors dans toute cette diversité.
Ça, c'est un peu méprisant, ça, non? Est-ce que ce serait du mépris de classe? Je pense que c'est un petit peu dommage quand même d'arriver à dire chose comme ça. Si on doit faire une étude sociologique, en fait, on fait de l'histoire, et je ne suis pas à ce micro, mais vous n'y êtes pas non plus.
J'ai
livré
très
simplement un récit de quelques heures sur place où j'ai constaté qu'il y avait une instrumentalisation politique qui, en plus, ne vient pas du Parti communiste, etc., mais vient d'affiliés du Parti socialiste, qui permet ensuite au Parti socialiste d'éviter de répondre à des questions beaucoup plus inquiétantes pour sa base électorale, qui est que le chômage continue de monter, que le déficit public n'est pas résorbé, que la position de la France sur des questions de sécurité et d'identité est illisible, qu'en matière de relations étrangères, on est complètement décrédibilisé, isolé sur la scène internationale. Donc moi, je trouve que ce mouvement bénéficie de complaisance pour justement agiter un joli chiffon et dire, regardez comme c'est joli là-bas. Alors que la vraie solution, c'est effectivement l'engagement politique.
Ce gouvernement fait comme très peur au gouvernement, ne serait-ce parce que la jeunesse est dans la rue.
Une forme de jeunesse. Toutes les études montrent que la jeunesse a glissé à droite et que c'est même Marine Le Pen qui arrive en tête des intentions de vote.
Oui, non, Vous avez voulu faire disparaître, il va revenir très fort.
Le mot de la fin, s'il vous plaît.
Oui, le mot de la fin pour vous, c'est quoi l'avenir? Alors, c'est quoi la suite pour ce mouvement?
À voir, mais c'est comme de toute façon très positif que la jeunesse revienne dans la rue sur des positions sociales. Et je salue ça.
Très bien, et vous ?
Moi, je pense, et ce sera ma seule incartade marxiste, que l'histoire a plus d'imagination que nous, et que on verra bien ce que ça deviendra, mais que c'est une forme de jeunesse très limitée qui s'exprime aujourd'hui. Le reste de la jeunesse, elle veut travailler. Quand 60 personnes bloquent la faculté de Tolbiac, 3000 veulent passer leurs examens. Quand 60 aujourd'hui bloquent une faculté pour empêcher les examens, 3000 veulent les passer. Si vous êtes dans un système démocratique, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui normalement sont majoritaires étudient pour travailler et redresser le pays. Je pense que c'est l'engagement qu'il faut leur souhaiter.
Merci beaucoup.
Merci.